Et puis là, il tend la main vers lui et puis il dit « Je suis ton père.
Mmh, » Passe-moi la crème.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je suis ton père, quoi. C'est un truc de dingue, quand même.
T'étales bien, hein.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Cette année, l'émission de science-fiction de Radio Évasion enfile son plus beau maillot de bain, se met de la crème solaire pour vous proposer une version estivale. Durant les mois de juillet et août, vous aurez le bonheur de retrouver votre émission en mode décontracté. En effet, pour cette numéro hors série, j'ai invité quelques amis passionnés de science-fiction avec lesquels je vais tailler de bouts de gras dans une sorte de causerie au coin des parasols. Durant ce deuxième numéro estival, un nouvel invité va nous rejoindre. Il s'agit de Yannick, vous l'écouterez un peu plus tard. C'est Florence qui a laissé sa place. Enfin, plus ou moins. Elle sera toujours là. Et comme ça, vous pourrez profiter de ses saillies drôlatiques et de sa sagesse proverbiale. Troisième question de notre série estivale. Votre média préféré pour la SF? Bon, je ne demande pas un seul choix, mais une préférence. Voilà. Julien?
Alors, je les préfère tous.
Ah,
du coup. Non. Avec quand même une vraie préférence pour le livre, pour la littérature, quoi. Pour le, voilà.
J'ai cru comprendre.
Oui, oui. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout exclusif, hein, parce que, comme j'ai parlé tout à l'heure de dessins animés. Hein.
Oui,
Je peux encore regarder aujourd'hui les dessins animés. On a parlé du Roi et l'Oiseau. J'adore le Roi et l'Oiseau. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Quoi. Donc, il y a ça. Dans le cinéma aussi, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour moi, le livre, c'est ce qui se rattache le mieux à ce genre de science-fiction et à l'imaginaire en général. Parce que l'imaginaire, quand même, par définition, ça fait appel à l'imagination. Or, quand on bascule sur de l'image, donc que ce soit du cinéma, de la BD ou là, on perd une partie de ce travail qu'on fait soi-même d'imagination et qui fait quand même tout le charme de la science-fiction.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que ma préférence, elle va clairement vers la science-fiction écrite, à partir du moment où on cherche quelque chose de... qui apporte des réflexions, on va dire. Voilà. Si c'est juste pour du divertissement, effectivement, on peut plus aller vers du Star Wars. Oui. Pas de problème. Ça me divertit beaucoup. Même s'il y a quand même certaines réflexions très intéressantes dans les premiers épisodes de Star Wars. Pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que, pour parler du cinéma, il y a de très bonnes choses. Blade Runner, par exemple. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Sûr. Et puis, il y a aussi de très mauvaises choses. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Oui. Mais voilà, c'est avant tout du divertissement. Mm-hmm. Ce sont aussi des adaptations. Donc, on est souvent déçus par les films parce que c'est jamais fidèle au livre. Mm-hmm. En tout cas, les films les plus récents.
C'est Philippe K. Dick qui aurait dit, quand il a vu les premières images de Blade Runner, il a dit « c'est une belle trahison ». Moi, je trouve que ça résume pas mal
la
chose.
Exactement. C'est Blade Runner, c'est un film qui ne suit pas vraiment le livre. Hein,
non,
du tout.
Mais qui est complètement réussi.
Oui.
Voilà. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et puis, on n'est pas juste dans le divertissement. On reste quand même. La SF s'est fait effectivement pour questionner un certain nombre de choses sur notre société d'aujourd'hui. Oui. Si on est uniquement dans le divertissement, c'est plus de la science-fiction. Quoi. C'est, voilà. Donc c'est pour ça que dans le livre, on a moins cette dichotomie entre pur divertissement et finalement. Et c'est philosophique, pratiquement. Voilà. Dans le livre, en général, ça reste ensemble, tout ça.
Hein,
ça va être divertissant, mais il y aura toujours une réflexion sous-jacente.
Tout à fait.
Voilà, c'est ce qui fait que ça me paraît plus intéressant.
Tout à fait. Je confirme. Après, je ne suis pas forcément partial. Notre deuxième Julien Laoche.
Alors, mes préférences ont changé avec l'âge. Au départ, c'était les films.
Ouais. Ensuite, c'est devenu un peu plus tard les séries. Et à l'âge de 21 ans, c'était la littérature.
D'accord.
Et j'en profite pour une petite parenthèse. Il y a un déclic que j'ai oublié, c'est la littérature science-fiction. C'est avec les livres de Bernard Werber, notamment les Thanatonautes, voilà, que j'avais découvert au collège. Je n'avais pas lu, mais bon, bref, j'avais pas eu de déclic. Et c'est arrivé à l'âge de 21 ans, après mes études, que là, j'ai eu un coup de foudre à la fois pour la littérature, mais pour l'écriture, du coup.
D'accord.
Et c'est là que tout est né, quoi.
Ah ouais. Pour moi. David ?
Un seul média, c'est vraiment difficile de répondre à cette question.
C'est pour ça que je laisse la question un peu ouverte.
Je pense quand même que c'est le livre, parce que, effectivement, comme disait Julien, dans le livre, dans la littérature, on a de la réflexion, on a de la pensée. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le cinéma, qui parfois peut être du pur cinéma de distraction. Mmh. Moi, ce que j'aime, c'est quand on me secoue un petit peu, quand on m'emmène sur des territoires que j'attends pas forcément.
D'accord.
Et c'est ça que je trouve intéressant. Après, je suis aussi un gros fan de cinéma. J'essaie de voir un film par jour là depuis.
Ah oui.
Depuis qu'on a été confinés l'année dernière.
Ah oui.
Alors hier soir, c'était 12 hommes en colère de Sidney Lumet. C'est pas du tout de la science-fiction, mais c'est un excellent film. et aussi de bande dessinée, parce que je pense que j'étais comme l'ami de, enfin comme le père de ton ami. À l'heure actuelle, je pense que j'ai plusieurs milliers de BD à la maison.
D'accord.
Et ça fait une très bonne isolation.
Je ne m'attendais pas à celle-là.
Le côté pratique de la science-fiction.
Voilà. Guillaume.
J'ai plusieurs médias en fait qui me plaisent. Je voulais revenir un peu sur ce que disait Julien Amic sur justement les adaptations de romans au cinéma. J'ai beaucoup de mal en fait à regarder un film tant que j'ai pas lu le bouquin, parce que j'ai cette appréhension en fait d'être comme disait Philippe Cady, quoi, d'être trahi en fait par le par le résultat final. Et je trouve que c'est, voilà, pour l'exemple en fait, moi j'ai beaucoup lu en fait, enfin j'ai beaucoup aimé lire Cartographie des nuages, qui était adapté en fait au cinéma sous le titre de Claude Atlas.
D'accord.
Qui dure assez longtemps et ça m'a tellement marqué en fait, parce que je l'ai toujours pas, le DVD je l'ai chez moi, hein, mais je l'ai toujours pas regardé. Non. Parce que c'est une expérience en fait de lecture, ce roman. C'est très particulier au niveau du découpage, et je m'attends en fait forcément à être un peu déçu. Après, à côté de ça, j'aime beaucoup lire, hein, bien sûr. J'aime beaucoup aussi regarder des séries télé, mais là c'est pareil aussi. Si c'est des adaptations de romans, j'irai un peu tout doucement. Par exemple, dernièrement, j'ai vu, enfin il y a quelques mois de ça, j'ai vu l'adaptation Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley en série télé. Ça va, c'était pas trop dramatique non plus. C'était D'accord. même plutôt assez intéressant comment ils ont traduit cela. Bon, c'était un peu édulcoré quand même, mais j'ai apprécié regarder cette série, quoi. Donc après, moi je pense que tous les films en fait, toutes les séries télé qu'on découvre sur les plateformes numériques, pour moi c'est des adaptations de romans des années 50-60.
Ouais.
C'est quelque part, il n'y a pas vraiment. Enfin, le média change en fait des mots, on passe à l'image et c'est avec plus ou moins de réussite. Donc,
oui, toujours.
Voilà.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les séries.
Oui.
Quand tu dis que c'est beaucoup des adaptations des années 50-60, tu prends par exemple une série qui a vraiment bien marché, enfin en tout cas la première saison qui est très bien, c'est Altered Carbon, qui est adaptée d'une série trois romans de Richard Morgan.
Oui.
C'est relativement récent, ça date des années 90, je crois.
Oui. Mais je ne l'ai pas regardé parce que j'ai pas lu la série de romans, mais j'avais lu en fait dans un article du Bifrost, c'est Thomas D en fait qui disait qu'il y avait beaucoup de films qu'on voyait en fait à l'écran actuellement et qui étaient très inspirés de la SF en fait de la littérature SF des années 50-60, et que selon lui en fait il y avait pas vraiment de, c'était juste en fait une continuité. Une sorte de mise en image.
Ça se discute.
Voilà.
On en rediscutera. Voilà.
Autour de Florence.
Ah ben moi, après, c'est vrai que c'est difficile en fait, de choisir un média parce que finalement, ils se valent en fait, tous et, mmh. et chacun en fait, a son. Enfin, chacun a sa manière de faire passer le message. En fait.
D'accord.
Après, moi personnellement, je sais que la bande dessinée, justement, mais ça c'est une affaire de goût en fait. Moi j'aime justement quand l'idée est mise en image en fait. Mm-hmm. Voilà. Et j'aime l'esthétique en fait de l'illustration. C'est quelque chose qui me parle et voilà. Moi je la regarde vraiment comme une œuvre d'art et c'est quelque chose qui me plaît. Donc du coup, bah, j'ai soin de choisir mes bandes dessinées. Et, voilà, bon, des fois, c'est pas très heureux, mais bon, mais voilà. Après, juste pour revenir sur le livre et le cinéma, en fait, le livre et le film, finalement, le temps du roman et le temps du film n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un roman, bah, déjà, on va lire sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, on va le fermer, on va le laisser, on va l'abandonner, on va le reprendre. C'est pas du tout la même chose. Tandis qu'au cinéma, bah, on est un peu public capté. Quoi. Ouais. C'est-à-dire on a 1h30, 2h, voire 2h40 parfois, qui peuvent être un peu longues. Et voilà, et on est là et on regarde. Bon, c'est difficile de faire pause sur un film. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et en plus, dans le livre, il y a justement cette question qu'on problématise. Parce que l'auteur, justement, on suit sa pensée. Et donc, l'auteur a besoin de problématiser. Alors, tous les romans ne sont pas dans ce cas-là. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice. D'ailleurs, je pense que ce qui fait un bon roman, en effet, c'est quand il y a une problématique, en fait, et qu'on cherche à y répondre à travers les personnages, à travers leurs actions. Et moi, je trouve que c'est extrêmement difficile parce que du coup, on se rate, on se reprend. Voilà. Et aussi, c'est ce que va rechercher le lecteur. Justement, tu disais être bousculé. Donc, c'est sûr que la richesse d'un roman ne pourra jamais être prise au cinéma ou même sur une série, ça reste compliqué. Pourtant, la série, justement, est un format peut-être qui lui correspond mieux parce qu'on a un temps qui est beaucoup plus long. Bon, ouais. On pourra jamais. Et puis en plus, il y a tout l'imaginaire, quoi. Donc c'est évident que pour le film, c'est très très compliqué en fait de mettre un livre en image en fait. Donc forcément, il faut faire des choix. Et après, si c'est adapté d'un livre, eh bien c'est une interprétation, en fait. Et finalement, le réalisateur, il va en faire autre chose et il va le faire à sa manière. Donc forcément, je vais citer Peter Jackson, nous ne sommes pas dans la science-fiction, mais tout de même, Peter Jackson avait dit pour Le Seigneur des Anneaux, je ne fais pas un film pour les fans, je fais un film de fans. C'est-à-dire, je fais mon interprétation du Seigneur des Anneaux. Heureusement, elle était heureuse pour lui.
Oui.
oui. Voilà. Mais à ses risques et périls. Hein.
Mmh. Mais du coup, ça c'est intéressant parce qu'en fait, on a finalement deux types de films de science-fiction et d'imaginaire en général. On a d'une part les adaptations et on a d'autre part les films qui ne sont pas adaptés d'un livre. En général, les films qui vont faire polémique, ce sont toujours les adaptations. Or, les adaptations, ce sont toujours des adaptations de monuments littéraires de la science-fiction.
Oui, c'est un cas gros.
Voilà, alors là, on parlait du Seigneur des Anneaux, on peut parler de Dune, parler. Voilà. Il y a des tas de films comme ça, il y en a d'autres, il y en a énormément. Et forcément, on a plus de chances d'être déçu quand on est déjà fan du livre à la base. Parce qu'on a déjà fait son travail d'imagination là-dessus, on l'a souvent lu, relu, on le connaît depuis peut-être des années et des années. Et donc, on se trouve devant quelque chose qui nous est imposé. Ouais. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça a été réussi, certes. Malgré tout, on nous impose des visages qui n'étaient pas forcément ceux qu'on avait à la base. On nous impose des elfes avec des oreilles pointues, des choses comme ça. Ouais. Des choses qu'on n'a pas nécessairement dans le livre. Donc, voilà, il y a vraiment une distinction à faire dans le cinéma entre les adaptations et les autres. Ouais. C'est pas du tout la même chose de regarder Retour vers le futur ou de regarder Seigneur des Anneaux.
Oui, tout à fait.
Oui, on peut avoir aussi le contraire, c'est-à-dire le film, je reprends Star Wars parce que là j'ai l'exemple qui me vient en tête, et d'avoir en effet une novélisation de Star Wars, et du coup, bah, ça fait des romans qui sont pas ouf, quoi.
Je confirme.
Enfin, c'est lui qui les a lus, hein.
Oui. Pas ouf.
C'est voilà, parce que ben évidemment, justement, il y a le point de vue. Enfin, finalement, au cinéma, on va jouer, à moins d'avoir une voix off ou voilà, on va beaucoup jouer sur un point de vue externe, puisque l'image est extérieure, tandis que dans le roman, on va aussi pouvoir jouer sur un point de vue interne. Alors, par exemple, dans Star Wars, si je prends l'exemple de la comment on montre la force, par exemple, en fait, on va, enfin, c'est pas qu'on va pas voir grand-chose, mais tout va être joué, et à part l'objet qui se déplace, mais au fond. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage ? Comment il se concentre ? Quelles sont les pensées qui lui passent dans la tête ? Ben ça, c'est off, on ne sait pas. Donc, on peut tout imaginer aussi. Et par contre, là, quand on se retrouve dans le point de vue interne, forcément, on est déçu, quoi.
C'est là que tu as intérêt à avoir de bons acteurs aussi, parce que
bien
pour faire
sûr.
Passer
après, oui,
les émotions sans pouvoir les lire directement.
Bah, oui,
effectivement.
Oui, du coup, c'est justement toute la difficulté pour l'acteur et ce qui en fait sa qualité. Donc après, c'est un choix. Après, c'est un choix de prestation, quoi.
Voilà. Question comme ça, vite fait. VO ou VF pour les films ?
VO, VO.
Alors moi, VF, en fait, ce que j'ai regardé beaucoup de VO sous-titrés sans ma paire de lunettes, et je me suis beaucoup abîmé les yeux.
Ah bah oui, forcément.
Et depuis, j'ai beaucoup de mal avec. Ouais. C'est vrai que je... Oui, la VO est quand même... C'est une autre façon de vivre le film.
Voilà, alors peut-être, sauf pour un certain nombre d'œuvres des années 80, donc qui sont aussi un rapport avec l'enfance, quoi. Mais par exemple, mais mon fils est d'accord avec moi d'ailleurs là-dessus, lui, il a que 15 ans. Non, mais, par exemple, sur Retour vers le futur, quand tu regardes la VO, tu n'as pas le nom de Zeus.
Non.
Ah ouais.
Et ben non, d'accord. Il dit autre chose.
Ah d'accord.
Ah oui.
Je me rappelle plus quoi, mais.
D'accord. Bon, comme quoi, j'ai toujours vu en VF, pareil. Hein.
Okay. Bah c'est ça. Après, on s'y fait. Après, forcément, on s'habitue, on l'a dans l'oreille, et puis. Ouais.
On peut lire sur les lèvres aussi en VO. Des fois, ça peut être marrant de justement de voir la différence entre la traduction et ce qu'il est en train de dire.
C'est pas faux. Ouais.
Oui, pour Code Quantum, il s'est passé ça. C'est dans la version française, c'est l'acteur qui a pensé à chaque fois que.
Il changeait
au bravo. Ouais.
Au bravo, c'est lui qui l'a inventé, l'interprète français. En version anglaise, il dit autre chose, il dit bon sang ou je sais pas quoi.
D'accord.
Et c'est l'acteur qui interprète la voix du
Scott Bakula.
Au bravo. Voilà, de ce côté-là. Voilà.
Mais faut voir qu'en France, on a des artistes spécialisés dans le doublage, ce qui n'existe pas dans tous les pays. Hein. Moi, j'ai un souvenir d'être allé voir un film en Russie, il y a 20 ans maintenant.
Ce qui paraît, c'est
et
monumental.
C'était une catastrophe, parce qu'il y avait une personne qui faisait les voix pour tout le monde. L'horreur.
Oh là là.
À partir du moment, en effet, où il y a un réel travail sur la VF... Là, ça devient intéressant, c'est-à-dire où en effet, ils prennent des acteurs qui campent. Et puis même, je sais pas, je pense à la voix de Bruce Willis, par exemple, en français, elle est mythique, quoi. Donc voilà, c'est évident, c'est pas de la science-fiction, mais les Tarantino, moi je suis habituée à la VF, quoi. J'aime bien. Les Sin City, j'adore la VF. Parce que là, il y a eu un vrai travail sur la voix off, de lecture, etc. Et là, ça devient intéressant. Après, en soi, c'est évident que voir un film en VO, on le voit dans sa langue originale, on le voit... Il y a le jeu d'acteur, et évidemment, on sait bien avec le travail en fait, sur le texte est indispensable. Quoi. Donc, l'un sans l'autre, ça semble ridicule, quoi.
Et c'est marrant parce qu'on se pose toujours cette question sur le cinéma, mais pas dans la littérature. Mais justement, c'est pas si différent parce que finalement, dans le cinéma, on a un acteur qui va doubler un autre acteur. Hein. Mm-hmm. Donc la qualité de la VF, moi je regarde en VF personnellement, mais la qualité de la VF, elle est très dépendante de l'acteur qui va jouer sa VF. Mm-hmm. Mais c'est la même chose pour les bouquins. C'est-à-dire que si tu as un mauvais traducteur, tu auras aussi un mauvais livre.
Oui.
Donc c'est le même problème, et je trouve ça assez marrant qu'on se pose jamais la question pour les livres, finalement.
C'est vrai que c'est judicieux. Ouais.
Parce que si on arrive à comprendre quelqu'un qui parle anglais, bon, évidemment, il y a les sous-titres.
La lecture, mais, c'est plus ardu.
Ou la question de faut-il tout traduire ? Parce que, par exemple, c'est les Québécois qui traduisent tout.
Ah, littéralement.
Ouais. Donc, par exemple, avoir, je ne sais pas, une novélisation Star Wars, donc Luke Skywalker, tu vois, systématiquement écrit en français.
Ou en québécois.
Ou en québécois, ça fait drôle, quoi. Donc, comment traduire Dark Vador ou,
Oui, oui, effectivement. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est un truc amusant. Pareil, bah, si on revient là à la littérature, il y a parfois dans certains auteurs... de nombreuses traductions qui se succèdent. On parlait de Tolkien tout à l'heure, il y a eu une traduction plus récente avec une traduction des noms, chose qu'il n'y avait pas avec l'ancien traducteur. On aime ou on n'aime pas.
Ben, voilà. Moi, j'avais regardé Le Seigneur des Anneaux avec mon fils. Forcément, ben, il a 8 ans, donc on ne pouvait pas le regarder en VO parce que ça allait beaucoup trop vite. Et, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, je lui ai dit « Mais tu sais, Bilbo, il dit, c'est Bilbon. » Ok. Ok.
Florence a laissé la main à Yannick. Yannick Latou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préparateur de commandes, vous avez 45 ans et vous habitez à Quimper.
Tout à fait.
Tout à fait. Je vais vous poser les premières questions qui ont été posées le mois dernier, histoire de vous connaître un petit peu plus. Et après, on repartira sur la liste des questions.
Ça marche.
Ok. Donc, quel est votre plus ancien souvenir de science-fiction ?
J'ai 45 ans, donc c'est temps X, ça c'est sûr.
Ça revient et souvent.
C'est surtout cet épisode où il y a un homme, il va dans l'espace, il revient. Alors c'est soit au-delà du réel, soit la quatrième dimension, je ne pourrais pas vous affirmer. Mm-hmm. Et le cerveau de cet homme grossit dans l'épisode. D'accord. Et quand vous voyez ça, vous avez 5 ans, ça vous marque. Quelque part, ça vous marque. Mm-hmm. Voilà, donc... Et après, il y a eu aussi Buck Rogers. Buck Rogers, la série Space Opera que j'adorais.
Juste une parenthèse comme ça, j'ai revu l'épisode pilote de Buck Rogers.
Dernièrement.
C'est un machisme absolu. C'est une horreur.
Et c'est tourné avec les pieds.
Ah oui, oui, oui. Mais vu avec le Me Too, comme on dit, c'est dégueulasse. Désolé du mot, mais c'est une horreur. Faut pas faire ça. Faut plus faire ça.
C'est le reflet d'une époque. Donc,
tout à fait.
C'est... Oui,
les années 70.
Voilà,
oui,
les années 70. Donc,
j'ai l'impression qu'ils étaient lourds de
droite. Oui, c'était pas terrible au niveau du féminisme.
Voilà.
Le personnage est inspiré de Pulp des années 30, hein, de toute façon.
Ah oui, oui, forcément. Oui,
oui, c'est une adaptation.
Oui, c'est pas récent. Hein.
Une adaptation de son époque.
Voilà. Et quel était votre déclic pour la passion de la science-fiction ?
Alors, mon déclic, il est venu en 99, parce que j'ai eu mes années Mad Movie, où je regardais beaucoup de films fantastiques, les Chucky, les Jason, enfin tous ces...
Ah oui.
Et je regardais de la science-fiction, parce que j'ai lu William Gibson, j'adorais le cyberpunk, mais je faisais... c'était une bouillabaisse, quoi. Et quand j'ai vu Science Fiction Magazine dans les rayons, avec un Terminator en couverture et une jolie fille, excusez-moi...
On y revient.
On y revient, aux jeunes filles, oui. Et j'ai pris ce magazine et j'ai vraiment découvert ce qu'était la science-fiction.
D'accord.
Avec cette interprétation, le cyberpunk toujours. En plus, 99, c'est l'année de Matrix, qui est un de mes films fétiches.
Oui.
Voilà, c'est comme ça. Ça a été le gros déclic. Merci en science-fiction magazine. Quoi.
D'accord. Et si vous aviez un média de préférence, ce serait lequel ?
Alors moi, je suis très cinéphile. D'accord. Je suis d'accord avec mes camarades, le roman de science-fiction est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Je lis des romans de science-fiction, je lis William Gibson, je les dévore, mais je suis très cinéphile, mais je regarde beaucoup de films.
Et voilà la fin du deuxième numéro estival de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage ». Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain numéro.